These are the times that try men's souls. In the course of our nation's history, the people of rallied bravely whenever the rights of men have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.
Retour dans DO Débat en direct de la bibliothèque municipale. Un DO Débat qui est un espèce de dépêche sous les yeux aujourd'hui, qui parle de littérature. D'habitude, on n'y comprend rien, la littérature, mais là, on fait semblant, on fait comme si.
Allez, Odile, vas-y.
J'essaie de réveiller Odile. Et donc, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne, parce que cette année, il y avait combien, 30 nouvelles qui nous ont été...
21. Tu exagères toujours.
Oui, j'exagère un peu, mais c'est parce que des fois, c'était long à lire. Donc,
non,
donc
c'est vraiment cette année, c'était très, très agréable. Il y avait une très belle production, moi, j'ai trouvé.
Très bien. Donc,
ça n'engage que moi, hein, puisque je n'avais qu'une voix dans l'histoire.
Donc, il y a plusieurs jurys qui se réunissent, en fait. En tout cas, il y a un jury béton qui se réunit d'abord avec combien de personnes de béton, je sais pas.
On est une petite dizaine, le jury Rock Attitude intra-béton. Ça permet de dégager trois nouvelles qui, pour nous, sont à étudier. Voilà.
À soutenir, on
va dire. À soutenir, voilà.
Et ensuite, il y a le jury officiel dans lequel siège qui, alors ?
On a la fac, la bibliothèque.
Trois personnes de béton, trois personnes de la fac, une personne de la bibliothèque, le président du jury. Et puis, avant, il y avait un journaliste, mais comme ils ne viennent pas.
Et il y a aussi le gagnant de l'année précédente.
On invite le gagnant de l'année précédente.
Et le président du jury cette année,
c'était Stéphane Bouquet, qui était l'artiste écrivain en résidence à l'université.
Qui est toujours d'ailleurs, non ? Il est parti ?
Ça y est, c'est fini.
Ah, c'est fini.
Ah oui, si tu avais écouté l'émission Des poches sous les yeux sur le résultat de cette résidence fabuleuse, tu l'aurais su.
C'est-à-dire si j'avais écouté jusqu'au bout. Non, ok, bon. Et donc ce jury officiel se réunit dans un resto où le repas est très bon, enfin c'est ce qu'on m'a dit parce que moi je ne suis pas invité, et finit par choisir un lauréat. Alors on va d'abord parler du jury béton. Hervé, toi qui es un des piliers de ce jury, comment ça se passe ce jury béton ?
Ben, le jury béton,
parle dans le micro.
On
là.
Se réunit à 10, 12, 15, suivant les années. Et puis on essaie de se mettre d'accord, on fait plusieurs tours, on se défend, on lit les nouvelles au bout d'un moment pour essayer de se mettre d'accord. Il
faut que les gens qui écrivent fassent gaffe, parce qu'on lit vraiment les nouvelles.
On lit vraiment les nouvelles, on essaie.
Ouais.
Et on essaie de se mettre d'accord. Ça frite un petit peu plus que dans le jury officiel, c'est un peu plus rigolo. Et donc, effectivement, on essaie de sortir trois nouvelles qu'on va défendre au jury final.
Et quand tu dis qu'on lit, on les lit bien sûr pour pouvoir avoir un jugement, mais on les lit à voix haute aussi, étant donné qu'on prend très à cœur le critère de référence. Cette nouvelle doit être radiophonique. Donc, une fois qu'on a fait notre sélection, on relit à plusieurs la nouvelle pour voir si ça va marcher à la radio.
C'est quelquefois assez rédhibitoire d'ailleurs pour certaines nouvelles, non ?
Et oui, c'est vrai. Parfois, on a choisi une nouvelle et puis on se rend compte que c'est très très ennuyant à lire à voix haute. Hein, encore une fois, c'est pas du tout le même exercice que de lire chez soi, confortablement installé.
Et alors cette année, c'était facile de choisir ?
Cette année, il y a eu quasi unanimité, ouais, aux deux jurys, à la fois à béton et à la fois au jury final. Donc oui, il n'y a pas eu trop de suspense quand même.
Moi, je te regarde avec des yeux noirs parce qu'on s'est quand même bien frité sur les deux dernières nouvelles qui restaient en lice. On n'était pas tout à fait d'accord.
Oui, oui. C'est un petit peu plus serré à la finale. Ouais, mais...
oui. Ben, disons que le thème de cette année, c'était ni Dieu ni maître. La nouvelle dont Olivier va nous parler.
On n'a pas donné son nom encore.
Ah oui, la nouvelle choisie.
On l'appellera Olivier pour l'instant.
Était absolument parfaite dans le thème et excellente. Et il y avait aussi une autre nouvelle qui, apparemment, à la lecture, on voyait bien que c'était écrit par un étudiant. Et donc, c'était pas du tout sur le même registre. On était dans le décalage, dans l'ironie permanente, et puis même peut-être dans le je m'en foutisme étudiant. Et donc, ça faisait deux choses complètement différentes, et il fallait se battre pour les deux. Et c'était vraiment pas facile.
Tu veux dire que les étudiants lisent pas le sujet, ils écrivent ce qu'ils veulent ?
Non, non, c'était un autre parti pris. Sujet, c'était très très bien aussi.
Et alors, à la fin, moi j'ai connu des années où c'était la vraie baston. C'est-à-dire qu'il se trouve que cette année, effectivement, bon, la nouvelle qui a gagné était largement en tête dès le début. Mais il y a eu des années où c'était une vraie baston, en tout cas à béton.
Bah, c'est toute la difficulté de l'écriture. Qu'est-ce qu'on aime dans l'écriture? Certains vont justement se mettre à lire une phrase qu'ils ont trouvée super bien écrite, et puis les autres vont me dire, mais non, mais pour moi, ça, c'est pas de la littérature, c'est pas ce que je recherche. Donc, forcément, toutes les opinions sont en lutte.
On peut peut-être aussi donner des conseils sur le style béton, parce qu'on a quelquefois quand même des nouvelles qui se veulent dans le style béton.
Bah, justement, non, je crois pas. Il n'y a pas de style béton. Oui, comme l'a dit Odile, on a des goûts relativement différents au niveau de la littérature, en tout cas. Justement, quand ça veut trop être style béton, trop rock, vomi, machin.
Voilà, c'est exactement
ça. Ça marche pas
ça.
Du tout. C'est très pénible souvent. Donc ça, on n'aime pas. Même si ça nous fait marrer dans d'autres circonstances, là, ça nous gonfle. Non, il n'y a pas de conseil. Il n'y a pas de conseil particulier. C'est d'écrire bien. Voilà,
et puis, sympa. Comme il s'agit d'une nouvelle, il faut en effet surprendre, disait Céline. C'est-à-dire que comme c'est un court récit, il faut absolument une fin inattendue, un renversement de situation à la fin. C'est la définition même de la nouvelle.
Et alors, à l'université et à la bibliothèque, comment ça se passe, le choix? Est-ce que vous discutez entre vous? Est-ce que c'est les représentants qui décident
À la bibliothèque, non, il n'y a que moi qui lis, en fait.
Ah ouais.
On a envisagé, on en avait discuté un peu avec Cécile une fois, d'ouvrir, mais ça suppose une organisation sur le temps de travail qui est un peu compliquée à mettre en place. Donc pour l'instant, c'est complètement uniparti, c'est que moi.
Ah oui, donc les candidats peuvent venir te voir en essayant de faire leur lobbying, c'est assez simple.
Oui, sachant que ça reste quand même assez modeste comme engagement de prix et de... On a besoin de se faire plaisir, c'est ce qui est important.
Et à l'université alors, Cécile?
Donc à l'université, en fait, le principe, c'est qu'on essaie d'associer au moins un étudiant dans notre jury et puis une personne de la bibliothèque. Donc il y a une personne du service culturel, généralement c'est la directrice, donc un étudiant, souvent notre stagiaire, voilà, comme ça il participe. Et puis là, cette année, c'était, oui, une personnelle de la bibliothèque, voilà, qui en plus s'occupe du coup, enfin, c'est la bibliothèque à l'année dernière a numérisé toutes les nouvelles et maintenant elles sont en lien avec tout l'historique et tout ça sous le site de la fac. Et du coup, ça les implique. Voilà,
et là, il y a eu des débats ou tout le monde était d'accord?
Alors non, on ne fait pas de pré-jury, en fait. Chacun pour soi. Voilà. Donc,
oui, oui. D'où le fait que moi, je vienne toute seule, ça revient à ça, en fait. Il ouais. n'y a pas 15 personnes derrière que je représente. Pareil pour l'université, c'est 3 personnes, 3 entités.
Alors, on parlait des nouvelles. C'est quoi une nouvelle, en fait? On aurait peut-être pu commencer l'émission là-dessus, mais... comme on a notre prof de français...
Non, je ne vais pas vous faire un cours, rassurez-vous, ne partez pas.
C'est quoi une nouvelle? Il suffit que ce soit court pour que ce soit une nouvelle?
Alors en fait, c'est un des genres les plus difficiles finalement à définir, parce qu'une nouvelle, ça peut aller de 3 lignes à 20 pages. Alors il y a des gens qui s'engueulent depuis des années pour définir les critères de longueur. Mais en gros, c'est plutôt un critère narratif, quoi. En gros, une nouvelle, c'est un court récit, comme disait Odile, qui est centré... autour plutôt d'un personnage, une histoire bien, bien resserrée. Ce qui fait que c'est aussi un des genres, enfin, à mes yeux, les plus difficiles, en fait. Souvent, c'est vrai que c'est un peu méprisé. On dit, oh, la nouvelle, c'est un petit récit. C'est un peu comme les courts-métrages par rapport aux longs-métrages. On a l'impression que c'est un sous-genre. Alors qu'en fait, ça demande une technique d'écriture vraiment très, très précise et de qualité. Donc, je dis ça pour flatter Monsieur X, dont nous ne dirons pas le nom. Et c'est un genre très, très, très ancien, en fait, qui remonte au Moyen-Âge et noble aussi, puisque la première Française à avoir écrit, déjà c'est une femme, donc on peut le dire, à avoir écrit des nouvelles, c'est Marguerite de Navarre, qui était la sœur de François Ier, voilà, qui a écrit des courts récits, donc qui s'appelait le Décaméron et l'Heptaméron aussi, Boccace. Enfin bon, j'ai dit que vous faisiez pas de cours, donc oui. je vais m'arrêter là. Mais effectivement, ce qui ressort de la nouvelle, c'est que c'est en général des récits très très variés et qui ressortent. Enfin, c'est par rapport à la radio, c'est important parce que souvent c'était des récits qui étaient lus à voix haute. Il y a un aspect oral aussi très important dans la nouvelle. Donc c'est tout à fait cohérent qu'une radio finalement organise un concours de nouvelles.
Est-ce qu'il faut absolument une fin qui surprend dans une nouvelle? Parce que disait
Odile, c'est effectivement une des caractéristiques qui revient le plus souvent avec la chute, quoi, l'effet de surprise sur la fin. Après, il y a des nouvelles, je sais pas, on peut penser aux nouvelles de Borges par exemple ou d'Alice Munro qui reposent pas forcément sur cette caractéristique. Mais Alice Munro, là, qui a eu le prix Nobel hein, il y a quelques années. Donc la nouvelle est quand même maintenant un genre à part entière reconnu dans les milieux littéraires.
Et il me semble que la nouvelle est pas très bien vue en France et que dès qu'on va dans les pays anglo-saxons, là, tous les grands auteurs ont fait des nouvelles.
Carver, c'est là qu'on peut en citer beaucoup.
Henry James, D.H. Lawrence, ils ont même fait des novellas, donc c'est des nouvelles un petit peu plus longues. Et c'est vraiment prisé ailleurs, mais chez nous, non, nous on aime bien les grands romans longs.
Ils ont fait des nouvelles, ils continuent à en faire, parce qu'on a l'impression toujours, ce que tu disais, c'est que je commence par des nouvelles pour faire mes preuves, et quand je serai grand, j'aurai le droit de faire un roman.
Mais non, parce que, par exemple, Henry James, il a toujours fait des nouvelles, alors qu'il a fait aussi des romans très longs, et
Ou Maupassant, par exemple,
qui faisait à la fois des nouvelles. C'est vraiment ce qu'on étudie même à la fac, hein.
Et Alice Munro, qui a pratiquement écrit, je crois, que des nouvelles, justement. Donc, qui est vraiment un auteur spécialisé. Mais c'est en même temps un genre très ludique, en fait, la nouvelle. C'est vrai qu'on peut jouer peut-être plus facilement qu'avec le roman. On peut aussi avoir des romans dont les chapitres pourraient constituer des nouvelles à part entière, une espèce de puzzle ou de mosaïque. Donc c'est vraiment un très beau genre.
Et c'est vrai, quand tu dis on peut jouer, et c'est pour ça que souvent la littérature policière s'est emparée de la nouvelle, parce que justement il y a un jeu, il y a un suspense avec un court récit, essayer de centrer toute l'action sur une... Enfin, il n'y a qu'une seule action et avec un dénouement rapide.
Comme la science-fiction, donc, ou science-fiction, le fantastique. Voilà. Enfin, c'est très vivant en fait comme genre, ça traverse... Plein de styles d'écriture différents.
Et à la bibliothèque, c'est un genre à part ou je sais pas, il y a un rayon nouvelle à la bibliothèque ou pas du tout?
Non, je crois pas. Non. Je regarde ma collègue qui s'occupe. Non, c'est classé par auteur, donc si l'auteur a produit des recueils de nouvelles, évidemment, ce sera dans les rayons. Mais après, pour rebondir sur les novellas, en effet, c'est le format un peu plus long que la nouvelle. C'est produit, il y a des éditeurs spécialisés qui font aussi beaucoup de novellas, enfin c'est beaucoup en science-fiction. Donc.
Et alors Odile, on disait aussi qu'aujourd'hui, avec le numérique, on réinvente la nouvelle en fait.
Bah oui, pour une fois, Radio Béton n'est plus dans le coup, je suis désolée de le dire, mais la nouvelle s'est déjà dépassée, puisque maintenant, il faut faire du Kaitai Shusetsu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le cell phone novel. Donc, cell phone, donc il s'agit des téléphones portables. Et maintenant, on écrit des mini-romans par téléphone. Alors, encore une fois, la France est à la traîne là-dessus. Mais par contre, au Japon, aux États-Unis et en Allemagne, il y a vraiment une explosion de ce genre de littérature. Et par exemple, au Japon, les trois plus grands succès littéraires sont des cell phone novels. C'est-à-dire qu'ils ont eu un tel succès en format de texto qu'ensuite ils ont été imprimés.
C'est pas forcément du texto d'ailleurs, ça peut être du texte normal on va dire, mais reçu sur téléphone portable.
Oui, mais quand même l'idée c'est de l'écrire avec le téléphone portable et c'est pour ça que souvent les chapitres font 100 ou 200 mots. Donc c'est vraiment très concis et En architecture, on a déjà vu « less is more », dans la mode aussi « less is more ». Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que moins on en fait, mieux c'est, parce qu'il y a très peu de mots, donc il faut être très concis et trouver le mot juste au bon moment, ce qui fait que c'est la littérature minimaliste, mais qui vraiment, en ce moment, à la cote absolue. Donc le roman le plus vendu au Japon actuellement, ça s'appelle « Love Sky », et il y a eu 12 millions de vues. Et donc, ça a été tourné en film aussi.
Alors, c'est la différence aussi entre nouvelle et feuilleton, parce que au Japon, il y a aussi ce phénomène-là, le feuilleton qu'on reçoit par téléphone.
Mais feuilleton, bah oui, ça se suit. Enfin, c'est une histoire qui se suit.
Eh ben, disons que là, on suit l'histoire, certes, mais on suit surtout la création, parce que dès qu'on a fait un chapitre, c'est-à-dire 100 ou 200 mots, on l'envoie, et donc les gens donnent leur réaction aussitôt.
Mais la nouvelle, pardon.
Et en plus, on peut faire aussi, donc, on peut télécharger une application avec une espèce de hashtag. Donc, dès que vous trouvez un mot qui vous intéresse, donc peut-être un thème qui va vous intéresser, vous êtes informé tout de suite que quelqu'un vient d'écrire 100 mots là-dessus. Donc, il y a un feedback permanent. Donc, c'est une nouvelle littérature qui explose.
Non, je voulais dire, tu disais suivre la création, et la nouvelle, étymologiquement, c'est ça, novellus, c'est ce qui est nouveau. Donc c'est vrai que c'est un genre qui est vraiment en rapport avec la création, dans ce qu'elle a de plus, effectivement, l'éloge de la brièveté, l'essence de la littérature.
Et puis pour les auteurs, c'est bien, parce qu'ils ne passent plus par des éditeurs, et donc le fric, à un moment, c'est pour eux direct. Aussi, n'oublions pas ce...
Alors le jury va se réunir juste après cette émission pour savoir si on bascule dans le cell phone novel, un béton cell phone novel. Et en attendant, on va écouter les Wampas, Didier Wampas d'ailleurs. La propriété, c'est du vol, puisque le thème, c'était ni Dieu ni maître. Il a fait un court...
C'est une nouvelle, en cinq mots.
Chanson de 3 minutes. Les Wampas, en tout cas, seront jeudi 11 sur Au quart de tour.
Je ne veux pas acheter de maison, je veux pas acheter d'appartement. J'ai rien à part une vieille idée. La propriété, c'est du vol. Mais si demain tu me quittais, et si demain tu t'en allais, je souffrirais tellement, même si la propriété c'est du vol. Je ne serai jamais à toi, tu ne seras jamais à moi, rien ne sera jamais à personne. Alors pourquoi s'en faire? Pourquoi s'en faire? Laissez-les dire, laissez-les faire. Il faut qu'un jour, si je pouvais faire un crédit sur 20 ans pour pouvoir te garder, je renierais ce à quoi je crois. La propriété, c'est du vol. Tu serais pour toujours à moi, mais même en rêve, je ne veux pas. Car je sais que même en amour, la propriété, c'est du vol. Tu ne seras jamais à moi. Garderai ma vieille idée. La propriété, c'est du vol. Mais si demain tu me quittais, et si demain tu t'en allais, je souffrirais tellement, même si la propriété, c'est du vol. La propriété, c'est du vol. La propriété, c'est du vol.
That try men's souls. In the course of our nation's history, the people of have rallied bravely whenever the rights of men have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.
Retour à la bibliothèque centrale de Tours pour la remise du prix Rockatitude. Le suspense est à son comble. On va bientôt avoir le nom du gagnant. Juste avant, Odile, qui est la branchée du moment, la hype. Tu veux nous parler de blog? C'est pour tout brancher,
oui,
le blog.
Parce que qui dit nouvelle dit donc œuvre rapide à écrire, enfin un petit peu plus rapide qu'un roman, puisque généralement un roman on met plusieurs années, donc la nouvelle moins. Et donc beaucoup de blogs existent avec comme particularité de parler de nouvelles et de publier des nouvelles. Dans l'équipe des Poches sous les yeux, nous avons une blogueuse, et c'est pas n'importe quelle blogueuse, c'est la blogueuse qui avait gagné le prix Rock Attitude il y a 3 ans. Donc on revient sur le thème de cette émission,
c'est
le
comme
prix
Rock Attitude. C'est comme ça qu'on embauche en fait à béton, enfin, on fait gagner des prix, puis après
donc
fait
le gagnant les gens. Va peut-être rejoindre mon équipe après, je ne sais pas. Et donc cette blogueuse qui s'appelle Anne a un blog qui s'appelle « Ce n'est pas une blague, c'est un blog ». Et ce blog de nouvelles est en association avec d'autres blogs de gens passionnés de nouvelles et d'écriture. Et elle a créé un concours de nouvelles. Et donc ce qui est fantastique, c'est qu'elle a réussi à convaincre 21 auteurs connus et publiés de lui donner des nouvelles sans compte d'auteur, sans droit d'auteur. Et donc elle a fait ce concours, et puis donc non seulement c'est un concours, c'est toujours ludique, mais en plus comme ces auteurs sont publiés, on connaît leur style, on connaît ce qu'ils ont fait, et elle propose les 21 nouvelles et sans donner le nom de l'auteur, et c'est aux internautes de retrouver l'auteur. Et en plus de dire quelle est leur nouvelle préférée. C'est pour ça qu'elle n'est pas avec nous aujourd'hui, parce qu'elle rend le prix du trophée des 2M aujourd'hui.
Très bien. Et donc, on s'en fiche, parce que nous, on va remettre le prix Rock
Attitude. Non, mais allez voir, ce n'est pas une blague, c'est un blog. C'est très intéressant.
Le prix Rock Attitude, donc Cécile, qui c'était l'officiel aujourd'hui. C'est incroyable. T'aurais pu mettre ta robe longue, mais bon, ok. Donc on est à la radio. Tu vas remettre le prix Rock Attitude. Donc cette année, le prix Rock Attitude est remis à qui?
Donc,
je donne les nominés et tout ça. Non,
le lauréat est Olivier Pion.
Wouh. Et il se trouve qu'Olivier Pion avait été prévenu, je ne sais pas par qui, mais il est dans cette émission, ce qui est quand même magnifique.
C'est fantastique.
Hein, Olivier, bonjour.
Bonjour.
Donc c'est une surprise, non, c'est
pas
une surprise.
Je suis extrêmement surpris. Oui. Je suis passé par hasard rendre des livres et puis là on me dit tiens, assieds-toi. Donc je merci beaucoup.
Alors tu n'en es pas à ton coup d'essai. Alors je rassure tout de suite le jury parce que il n'a pas été publié, on va pas casser le prix, mais tu n'en es pas à ton coup d'essai, tu as déjà gagné un prix à Tours.
Oui, tout à fait. Ouais.
Avec nos amis des studios.
Exactement, avec nos amis des studios. Je me spécialise un petit peu dans la nouvelle locale. Hein. C'est une niche qui est à prendre, hein, qui est plus accessible que le prix Nobel, a priori.
Pour l'instant, pour l'instant.
Mais bon, voilà, on commence, c'est modeste. Hein. Donc effectivement, j'avais gagné le concours de nouvelles qui avait été organisé à l'occasion des 50 ans des Cinéma Studios, l'année dernière. Hein.
L'année dernière, donc ouais. Tu passes ton temps à écrire ou tu écris juste quand il y a un truc à gagner?
Non, voilà, en fait, c'est l'appât du gain qui me fait écrire. Hein. Ouais. Et à chaque fois, je me fais avoir parce qu'il n'y a rien à gagner. Mais j'ai la satisfaction de passer sur les ondes de Radio Béton ou d'être invité au studio. Donc
alors, qu'est-ce qui a gagné d'ailleurs dans ce prix? Parce qu'on ne l'a pas dit depuis le début, pour inciter les candidats pour l'année prochaine.
Donc, le prix, bah, déjà de voir sa nouvelle enregistrée dans les studios de Radio Béton. Et ensuite, qu'elle soit... diffusée via la radio, via la web radio, via les sites des trois partenaires bibliothèques, le site de Béton et le site de l'université. Ensuite, elle est éditée dans le tiré à part du festival. Donc, pour tous ceux qui ont déjà le tiré à part, vous pouvez maintenant regarder ce qui se passe en bas de page. Vous avez le droit.
Et il y a le nom du gagnant.
Il y a le nom du gagnant avec la nouvelle entièrement éditée. Ensuite, le gagnant a aussi un bon d'achat dans sa librairie préférée de 300 euros pour s'acheter des bouquins. Et puis, il gagne aussi 2 passes pour le festival au quart de tour.
Hey,
voilà,
c'est pas
en
mal,
VIP.
Ça. C'est pas mal. En VIP?
Yes.
Ouf. Enfin, moi, je connais les salons VIP de quart de tour, c'est énorme.
J'ai pas encore vu les tribunes.
Et il va gagner aussi le droit de participer au jury de
l'année
prochaine.
S'il souhaite, il pourra participer au jury. Voilà.
Et d'intégrer l'équipe de Dépêche sous les yeux.
Avec
direct,
plaisir. Hein.
Direct, parce que. Alors, non, mais je reviens à ma question précédente. Tu écris depuis longtemps et tu écris souvent.
Alors, j'écris depuis assez longtemps, mais de façon extrêmement confidentielle, hein. C'est-à-dire que j'ai pas de prétention, j'ai jamais envoyé de manuscrits à des éditeurs ou je ne sais quoi. Donc c'est généralement mes proches, ma famille qui profite de ma prose ou qui subit ma prose. Hein. Mais j'ai pas une production très importante. Hein. C'est un passe-temps. C'est une sorte d'écrivain du dimanche. Hein. Il y a des gens qui vont à la pêche ou qui font des tableaux de la Loire. Moi, je gribouille un petit peu.
Et là, tu as écrit les nouvelles après que le thème ait été publié ou avant? Parce qu'on a quelquefois, dans le jeu, on sent qu'il y a certaines nouvelles qu'on nous refile, mais qui avaient déjà été écrites et qu'on essaye de la faire coller au thème.
Un petit peu des deux, en fait. Il y a quelques années de ça, j'éditais un petit journal, hein, qui s'appelait L'écorché vif, hein, que je diffusais à un nombre de lecteurs extrêmement restreint et trié sur le volet pour être sûr d'avoir une critique, un retour de critique favorable. Et j'avais écrit un petit texte qui est en gros la structure narrative de la nouvelle qui a été retenue là. Et que j'avais mis de côté, que j'avais jamais finalisé, et puis j'ai arrêté de publier ce petit journal parce que, par manque de temps principalement. Et lorsque j'ai appris que le thème de cette année était Ni Dieu ni Maître, j'étais parti sur une autre idée au départ. Enfin, à partir du moment où j'ai décidé de participer au concours, hein, j'étais parti sur une autre idée qui était plutôt d'écrire l'histoire d'un vieil anard qui vivrait dans le quartier Paul Bert et qui se dirait tiens, je vais participer à ce concours, mais moi, en tant qu'anarchiste, je ne vais pas participer à un concours qui prétend être sur le thème Ni Dieu ni Maître et avoir des pages de règlement à non plus finir. Donc l'idée, c'était ce vieux type un peu grincheux, enfin, non pas que les anards soient forcément grincheux, c'est pas ce que je veux dire.
Il y en a,
on connaît. Il y en a sans doute. Qui partirait sur l'idée de d'écrire un texte qui délibérément irait à l'encontre de tous les points de règlement qui seraient fixés par le... Voilà. Et puis, le texte qui produirait, ça aurait été justement celui que j'ai fini par écrire, finalement. Et dans l'idée, quelqu'un lui piquait son manuscrit un jour où il était un peu affalé dans un bar, hein, le présenter au concours et remporter le... Voilà. Alors l'idée était un peu, sans doute un peu ambitieuse. J'ai pas réussi à la développer comme je l'aurais souhaité, et surtout pas dans la contrainte de taille, hein, qui était imposée. Et donc du coup, je suis resté sur le texte lui-même, hein, que j'ai repris, que j'ai développé, que j'ai.
Alors la contrainte de taille, je vais expliquer pourquoi. Les autres peuvent expliquer encore mieux pourquoi tu as gagné, mais tu tiens très bien la contrainte de taille et tu tiens très bien l'aspect surprise de fin de nouvelle où on est tous restés, enfin on s'est tous marrés et on s'attend pas à la fin de la nouvelle. Ça c'est compliqué à faire quand on écrit une nouvelle. T'as dû la reprendre.
Ouais,
beaucoup.
C'est très compliqué. Enfin, il y a sans doute des gens des écrivains. Je ne suis pas écrivain moi-même. Il y a sans doute des gens qui produisent du texte et qui sont capables de se tenir comme ça une concision ou aller à l'essentiel. C'est pas du tout mon cas. Les gens qui me lisent savent que j'ai plutôt tendance à déborder et puis à faire des phrases à rallonge avec des successions d'adverbes et d'adjectifs à non plus finir. Et des choses un peu indigestes, très très franchement. Le fait de rentrer dans une contrainte comme ça qui est imposée, ça oblige effectivement à beaucoup élaguer, à aller à garder l'essentiel ça m'a plutôt servi en l'occurrence parce que la première version du texte que j'avais développé était deux à trois fois plus longue que celle-ci. Et alors c'est un peu un crève-cœur, hein, parce que quand on lit dans son coin tout seul, on se dit ça c'est génial, je peux pas enlever cette idée, elle est trop drôle. Et puis bon, quand on l'a lu 15 fois, 20 fois, on la trouve moins drôle. Hein. Donc après, on est obligé vraiment de garder celles qui font sens, hein, les phrases qui font sens et puis qui rentrent dans un rythme de général qui est cohérent. Voilà. Donc sans contrainte, je pense que le texte n'aurait pas du tout le même intérêt, enfin c'est une évidence, mais ce serait beaucoup moins, j'allais dire, plaisant à lire, ça fait peut-être un peu orgueilleux.
Mais il est, non, parce que les lagages étaient parfaits. On a pris beaucoup de plaisir. Et, enfin, pour ma part, j'ai pas vu du tout les endroits où il y avait eu les lagages. Donc, bravo.
Parce que c'est à la fois sérieux et drôle. Tu penses que tu as écrit ou c'est complètement d'invention ?
Bah, le... En fait, je connais le prix Rock Attitude depuis quelques temps déjà. C'est la première année que je participe, hein, mais je connaissais déjà l'existence de ce concours, de ce prix, puisque j'écoute un petit peu Radio Béton. Enfin, je suis tout en jeu depuis X temps et je connais bien Radio Béton. Et ce qui m'a motivé principalement, c'est effectivement le thème, hein, ni Dieu ni maître. J'ai une sympathie. Je dirais pas que je suis anarchiste moi-même, parce que ça sous-entend être anarchiste, c'est être militant, être actif, etc. Ce qui est pas mon cas. Je suis un peu trop pantoufle pour être un vrai anarchiste. Mais dans l'esprit, je trouve que l'idée est très séduisante. Hein. Donc l'idée d'écrire une nouvelle sur ce thème-là, oui, m'a beaucoup motivé. C'est l'élément déclencheur. Hein.
Et le président normal, t'as beaucoup motivé aussi ?
La nouvelle que j'avais écrite initialement date de quelques années déjà. Et c'était à une époque où le président précédent envisageait fortement de se représenter. Donc la première mouture était beaucoup plus axée sur Nicolas Sarkozy. Il était nommément cité dans le texte. Hein. Et puis bon, c'est un peu lourd. C'est sans doute pour ça que je l'avais laissé tomber. Et puis quand je l'ai repris, j'étais reparti un peu sur la même veine. Hein. Le côté cette façon de faire de la politique un peu incisive, un peu ambitieuse, pas forcément dans le bon sens du terme. Hein. Et puis je me suis dit que finalement, ça, on ne pouvait pas cibler une personne, parce que ça n'avait pas de sens dans le... Voilà. C'était pas spécialement... Alors on voit effectivement la référence à certains discours du président actuel, hein. Mais c'était pas ciblé ni sur François Hollande, ni sur un homme politique précis. C'était ciblé sur... des gens qui ont des ambitions, qui imaginent que le pouvoir va les aider à vivre.
Alors, on ne peut qu'inciter Olivier à continuer à écrire, puisqu'on a d'anciens gagnants qui ont été publiés, eux, dans des grandes maisons d'édition. Enfin, peut-être dans
comme la Manufacture des Livres, oui. C'était Michel Douard qui a gagné il y a 2 ans et qui, juste un an après, jour pour jour, a publié son premier roman. Donc, on ne sait jamais. Hein. Bonne chance.
Oui.
Pardon ?
Audran
Toumel. Ah oui, mais moi, je n'étais pas là. Je suis désolée. Ça fait que 6 ans que je suis là.
Sauf erreur de ma part, on n'a pas donné le titre de la nouvelle.
Mais c'est vrai.
Hein ?
On n'a même pas dit que ça parlait d'un président. Enfin, alors, je pense que les auditeurs ont compris.
Oui, hein, alors je pense qu'il ne faut pas raconter la nouvelle. Il faut que les gens la lisent et l'écoutent. Parce que sinon, si on commence à raconter une nouvelle... Bah,
voilà, c'est teasing.
Ouais. Et donc, c'est quoi le titre ?
Mon chef.
C'est mon chef. Mon chef, mon chef, le président, c'est mon chef tout court. Pourquoi d'ailleurs ?
À mon boulot, ça n'a aucun rapport. j'ai effectivement un chef que j'appelle pas mon chef. Il y a un transporteur qui m'appelle toujours mon chef. Et j'ai toujours été extrêmement intrigué par ce sobriquet. Salut mon chef, me dit-il. Un type qui n'est pas désagréable par ailleurs. Hein. Et je trouve ça étrange d'appeler quelqu'un mon chef. Hein, voilà. Et quand j'ai écrit la nouvelle, je n'avais pas de titre au départ. Et m'est revenue cette expression en tête. Hein. Et je trouvais que ça se mariait bien. Et puis du coup, ça m'a donné un peu l'idée du dénouement avec ce type qu'on appelle mon chef. Comme ça. Enfin, je ne dévoile pas le.
Voilà. D'autres questions, messieurs, dames du jury ou des jurys ?
Oui, moi j'en ai une. Donc tu disais que tu n'étais pas écrivain, même si ça peut se contester. Est-ce que tu es un lecteur ? Et si oui, est-ce que tu as des modèles, en fait, soit dans le genre de la nouvelle, soit plus largement ?
Alors je lis régulièrement, je lis lentement, donc je ne lis pas beaucoup. Mais je lis très régulièrement, je prends beaucoup de plaisir à lire, ce qui n'a pas toujours été le cas. J'ai commencé à lire très, très tard. J'ai commencé à lire avec Boris Vian.
Et pas mal.
Oui,
c'est un bon
début.
Pire.
Et j'ai une démarche un peu compulsive de lecteur, c'est-à-dire que quand j'ai lu, en fait, en, En fait, j'ai commencé par l'écume des jours, ce qui n'est pas une grande originalité. C'est ma sœur qui m'a dit, tiens, toi qui lis jamais, dis donc ça. Et c'est un bon conseil, puisque du coup, j'ai enchaîné tous les Boris Vian et tous les Vernon Sullivan. Voilà. Et puis de Boris Vian, on passe à Raymond Queneau, et puis de Raymond Queneau à Louis Lippo. Voilà. Donc je lis pas beaucoup, je connais pas beaucoup d'auteurs, mais j'ai tendance à lire tous les textes des auteurs qui me touchent. Voilà. Et en particulier, j'ai une sensibilité qui me pousse vers les auteurs de oulipiens. J'aime beaucoup Georges Perec. Et la nouvelle, là, Mon Chef, reprend d'ailleurs la première et la dernière phrase de la nouvelle sont directement pompées, faut le dire, sur une nouvelle de Georges Perec qui s'appelle Le Voyage d'hiver.
Ah, on se disait pendant le jury. Hein. Ouais, ouais. Je me souviens, on s'est dit, ça serait bien du Perec. Ben, on avait raison, en fait.
On n'avait pas osé le dire. Hein, mais...
Donc voilà, je trouve que Georges Perec est un auteur extrêmement intéressant, qui travaille beaucoup avec des contraintes, hein, non seulement ne le bride pas, mais enfin ne le bridait pas, mais lui donner une liberté absolument
ni Dieu ni maître, quoi.
Oui,
voilà.
Exactement.
Et donc tu continues à lire Perec ou tu lis autre chose en ce moment ?
Je relis Perec régulièrement. En particulier W et puis La vie mode d'emploi, qui sont vraiment mes deux livres de chevet. En ce moment, je lis le dernier livre d'Olivier Cadio qui s'appelle Providence. C'est un auteur que j'aime beaucoup aussi, qui a une écriture extrêmement particulière. C'est un auteur que j'ai découvert par le biais de Rodolphe Burger, l'ex-chanteur de Katonoma, qui avait adapté beaucoup de ses textes dans son premier disque en solo. Puis ils ont travaillé ensemble après, et qui a une écriture à la fois avec un rythme extrêmement, extrêmement envoûtant, et puis un côté un peu obscur aussi. J'aime bien les choses un peu absconses. Mais j'ai quelques auteurs comme ça qui j'aime beaucoup Tanguy Viel. Hein. C'est un auteur que je trouve vraiment très 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 intéressant, et je regrette qu'il ne soit pas plus mis en lumière qu'il n'est.
Mais comment ça, avec Cyclic, il était président du jury l'année dernière.
Et en résidence Cyclic, en ce moment à Orléans, je crois.
Il crée en ce moment un roman enregistré.
Oui, il écrit un roman.
Enfin, elle est sur le site, vous verrez. On voit tout son work in progress.
C'est dingue. D'autres questions ? Plus de questions, parce qu'on va écouter.
Non, des félicitations.
Oui, voilà.
C'était très agréable et merci d'avoir participé et d'avoir gagné.
C'était trop facile pour le choix, en fait. Hein. C'était un peu ce qu'on disait hors antenne. Il n'y a pas vraiment eu de baston parce que le choix était évident cette année. Vous n'êtes pas d'accord ? Cécile n'est pas d'accord, mais on pourrait refaire le jury en direct.
On avait dit qu'on ne faisait pas le jury en direct.
Alors, on va écouter cette nouvelle. Violette, ça marche comment ? Tu croyais que tu étais là tranquille ? Non, pas du tout. Ça marche comment, l'enregistrement d'une nouvelle ? Qui a enregistré ?
C'est un membre de l'équipe des salariés de Radio Béton. Donc, depuis le temps qu'on enregistre la nouvelle, il y a eu plein de personnalités de réalisateurs différents, donc de partis pris de réalisation, une partie pris esthétique différente. Certaines nouvelles ont eu une réalisation très minimaliste, avec juste une seule voix, comme on peut l'entendre parfois, qui fait tous les personnages. Des nouvelles très, très jouées, entre guillemets, avec certaines avec beaucoup de musique. Donc là, cette année, depuis quelques années, on fait appel à des artistes locaux aussi qu'on a envie d'entendre à la radio pour jouer ou lire la nouvelle, et aussi pour certaines musiques additionnelles. Et là, on a proposé à des comédiens qui sont dans le sérail de la radio et de Quart de Tour depuis longtemps, qui sont Arnaud Aymar, Gwendal Stéphan et Jérôme Dupin, qu'on retrouve chez Spectralex, comme je sais pas, L'Oiseau Bleu, ouais. Les Chevaliers de l'Espace-Temps, etc.
Donc on est obligé de parler dans cette émission
qu'on retrouvera, évidemment. Sinon on se fait virer.
Ouais, c'est ça, exactement.
Qu'on retrouvera aussi au Quart de Tour, et puis dans pas mal de... Et qu'on a déjà entendu à la radio, notamment pour Gwendal et Arnaud, qui animaient les Bétonnades All-Stars. Voilà, et qu'on retrouve en ce moment dans une web-série qui s'appelle The Fabulous Flying Flat, que je vous invite à retrouver sur YouTube. Et pour la musique, on avait envie d'un générique qui ressemblait à celui des histoires racontées pour enfants, qui s'appelait Raconte-moi des histoires, qu'on trouvait à la fois charmant, cocasse et qui collait bien à l'histoire Mon Chef. Et c'est Jean Skibitz qui nous a gracieusement offert une musique originale pour la nouvelle et qui colle bien à ce qu'on avait envie de faire.
Voilà, tout simplement. Donc on va écouter maintenant cette nouvelle. On se retrouve après. Juste après, on parlera de l'agenda de Déo Débat et de la suite de Quart de Tour et de ce qui se passe à la bibliothèque. Donc on écoute Mon Chef d'Olivier Pion.
Rock Attitude 2015. Mon Chef par Olivier Pion.
Dans la dernière semaine d'octobre 2017, tandis que les rumeurs de guerre envahiront Paris, le sous-secrétaire d'État aux anciens combattants périra accidentellement sous les roues d'un camion poubelle, dont le conducteur, sous prétexte que son arrière-grand-père était indochinois, sera immédiatement soupçonné par certains médias d'être rien moins qu'un terroriste. La France et la Chine traversant alors, suite à une sombre affaire de piratage industriel, une crise diplomatique aiguë, cette allégation insidieusement raciste rencontrera auprès de l'opinion publique un écho des plus favorables. Le président de la République française, récemment élu au terme d'une campagne essentiellement basée sur l'exaltation d'un nationalisme furieux, exigera alors avec fermeté des excuses que son homologue chinois lui refusera avec mépris. Le président français annoncera que face à cette inacceptable situation, il ne pouvait faire autrement que d'ordonner à son porte-avions nucléaire de mettre immédiatement le cap sur la mer Jaune. Le président chinois répondra que, dans ces intolérables circonstances, il n'avait d'autre choix que d'envoyer ses missiles eux aussi nucléaires en direction de la France. C'est à ce moment qu'il sera décidé au plus haut niveau de lancer l'opération Black Box. Élaboré pendant la guerre froide, abandonné après la chute du mur de Berlin, mais réactivé suite aux attentats du 11 septembre, l'opération Black Box doit permettre d'assurer la pérennité de l'État en cas de catastrophe majeure susceptible de réduire à néant toute ou une partie du territoire. La disposition principale de ce plan d'urgence consiste à organiser le regroupement d'un certain nombre d'individus considérés comme indispensables à la reconstruction nationale, dans un abri ultra sécurisé situé sous le palais de l'Élysée. Ainsi, dans la nuit du 10 au 11 novembre, 107 personnes triées sur le volet et ayant pour point commun une étroite proximité avec le président s'enfermeront dans le bunker souterrain, laissant à leurs concitoyens le soin de se faire atomiser par les bombes asiatiques. Vers 5 heures du matin, le général responsable logistique de l'opération Black Box se présentera en salle de réunion où il annoncera être porteur de deux nouvelles.
Une bonne et une mauvaise.
S'enquerra-t-on ?
Non. Deux mauvaises.
Répondra-t-il laconiquement ?
Selon nos premières estimations, le taux de radioactivité au niveau de l'Élysée est 10 millions de fois plus important que la normale.
Et la seconde nouvelle ?
Enchaînera le président sans s'émouvoir davantage.
Nous ne pouvons pas entrer en contact avec l'extérieur. Tous les appareils sont hors service.
Un silence pesant envahira la pièce.
De toute façon, risquera un ministre, il ne doit plus y avoir grand monde à qui parler là-haut.
Bien,
coupera le président.
Je crois qu'il va donc falloir se préparer à passer un petit bout de temps sous terre.
Le petit bout de temps durera 26 mois, pendant lesquels les tentatives répétées pour communiquer avec la surface échoueront les unes après les autres. Alors, on tuera le temps en préparant l'avenir. Le président aura une idée très arrêtée sur la façon dont il conviendrait de diriger le pays afin de reconstruire la grandeur de la France, terriblement affaiblie par ce qu'il appellera les excès de la démocratie. Il ira même, dans ses meilleurs jours, jusqu'à laisser entendre que l'épreuve traversée par les Français est certes terrible, au bout de quelques mois elle dira même pénible, mais au moins permettra-t-elle de repartir du bon pied.
Après ça,
affirmera-t-il,
certains obstacles qui freinaient l'accomplissement de mes projets ayant été balayés, nous pourrons enfin imposer les réformes qui n'auraient été auparavant possibles qu'au prix d'éreintantes négociations. Pour le coup du passé, nous allons vraiment faire table rase.
On rira volontiers à cette boutade. Certains par franche bêtise, d'autres par opportunisme mesquin, tous par servile habitude. Il y aura là, autour du président, un petit monde soucieux de son propre avenir qui tentera de se placer, intriguant volontiers. Avec le temps, les bassesses et autres vilainies rendront le climat étouffant. Le président lui-même finira par s'agacer de la promiscuité des cuistres et des félons, mais aussi et surtout de l'absence d'admirateurs. Bien plus que la lumière du soleil ou le chant des oiseaux lui manqueront le crépitement des flashs et les applaudissements d'un peuple qu'il continuera de croire sien. Chacun observera alors avec une attention anxieuse l'évolution du taux de radioactivité qui restera désespérément invariable. Longtemps, l'ingénieur atomique en charge du suivi annoncera qu'il ne fallait pas compter sur la moindre baisse avant au moins un an. À la fin du 18e mois, on commencera à montrer quelques signes d'incompréhension. Au bout de 2 années, il avouera avec une désarmante franchise qu'il ne comprenait rien. 5 semaines s'écouleront encore avant que le président, lassé de ses incessantes constats d'impuissance, ordonne au général d'aller lui-même jeter un coup d'œil en surface.
« Vous allez rire !»
dira le militaire tout en revenant un quart d'heure plus tard.
« Il n'y a pas un poil de radiation là-haut !»
Oh. Il s'apprêta à expliquer comment la pile nucléaire qui devait servir de batterie de secours à l'abri avait fondu, détériorant irrémédiablement le service de communication tout en faussant la sonde de mesure du taux de radioactivité atmosphérique. Mais le président ne lui laissera pas le temps de prononcer plus de 3 mots, sans prendre la peine d'écouter les conseils de prudence adressés par son entourage. Il se précipitera à l'extérieur. Un pâle soleil d'automne éclairera la cour de l'Élysée. Le président restera un long moment immobile et perplexe. Au lieu du tas de ruines qu'il s'attendait à découvrir, il trouvera l'endroit tel qu'il l'avait laissé, hormis le sol de la cour, percé de plusieurs trous autour duquel s'activeront des ouvriers.
« Je peux vous aider ?»
proposera une jeune fille. Le président hésitera un moment.
« Vous avez reconstruit l'Élysée ?»
Nous installons juste des garages à vélo.
Je veux dire, le bâtiment, vous l'avez reconstruit ?
La jeune fille froncera les sourcils. Le président bredouillera quelques mots à propos des bombardements, mais rapidement l'incompréhension de son interlocutrice l'énervera. Il lui demandera si elle le fait exprès, surtout si elle a bien compris à qui elle avait affaire. Celle-ci lui assurera qu'elle l'avait parfaitement reconnu et qu'elle serait très curieuse de savoir ce qui lui était arrivé depuis tout ce temps, mais qu'il n'était pas vraiment nécessaire de se fâcher.
« Par contre, je serai vous, je ferai quand même attention. »
ajoutera-t-elle en désignant une tranchée au pied du président. Pendant ce temps, un petit attroupement se sera formé autour d'eux. « Tiens, ce n'est pas le type qui était président ?» dira quelqu'un d'un air étonné avant de se retourner pour interpeller une camarade.
« Qui ça ?»
criera-t-elle en s'approchant. « Le président de quoi ?» demandera un autre.
« Je sais pas, mais si j'étais lui, je ferais gaffe au trou. »
répondra un dernier. Le président titubera, sentant ses forces l'abandonner. Puis le sol se dérobait sous ses pieds. Il aura juste le temps d'entendre crier
« La tranchée, bon sang ! Je l'avais prévenu !»
avant de s'écraser au fond d'un trou boueux où il perdra connaissance. Lorsqu'il reviendra à lui, il sera allongé sur un tas de gravats à côté duquel un homme guettera son réveil.
« Vous allez mieux ?
Mais que se passe-t-il ici ? »
balbutiera le président. L'homme lui expliquera qu'ils sont en train d'installer des garages à vélo.
« Non, mais qu'est-ce que... comment ? Enfin, qui êtes-vous ? Vous êtes ministre ou quelque chose comme ça ?»
Le visage de l'homme se figera sur une expression mélangée de surprise et d'incrédulité avant qu'un franc fou rire envahisse la cour. Malgré les regards furibonds que le président lui adressera, l'homme finira par se laisser tomber sur une caisse afin d'être plus à son aise pour se taper les cuisses.
Mon pauvre ami,
dira-t-il enfin en s'essuyant les yeux.
Les ministres, ça n'existe plus.
Le président comprendra de moins en moins.
Ouais. Plus de ministres. Mais alors qui gouverne? Qui est président? Ce ne sont quand même pas les Chinois.
L'homme, croisant les bras sur sa poitrine, penchera la tête d'un air dépité.
Ah ben oui, forcément,
dira-t-il avant de commencer à raconter.
Lorsque j'ai appris que les Chinois s'apprêtaient à lancer un paquet de bombes atomiques sur la France, j'ai d'abord pensé à fuir, comme tout le monde.
Ah bon ?
Mais pour aller où ? Il aurait fallu quitter le pays, se sauver le plus loin possible. Les aéroports et les gares ont été immédiatement bloqués. C'était la panique totale. Seuls ceux qui disposaient d'un avion privé, une poignée de types avec beaucoup d'argent et des grosses responsabilités, ont pu partir.
Ouais, c'est vrai, il a raison.
Les autres, les ploucs, comme moi, ont vite compris qu'il n'y avait plus d'espoir. Ils étaient condamnés. Alors, je suis retourné dans la rue, devant chez moi.
Tout le quartier était là, ou presque. On se tenait la main et on regardait le ciel en attendant la mort. Mais la mort ne vint pas. Les missiles s'abattirent un peu partout, faisant de gros dégâts, mais bizarrement très peu de victimes. On s'attendait à un déluge atomique, ça ressemblait plutôt à une pluie de grêlons. Des grêlons vraiment énormes, mais pas du tout radioactifs. Les bombes tombaient n'importe où, comme au hasard. La plupart n'explosaient même pas. Au final, et ça c'est vraiment l'ironie du sort, ce sont ceux qui avaient réussi à prendre un avion qui dégustèrent le plus.
Non.
Parce que beaucoup d'appareils furent percutés par des missiles et s'écrasèrent. Des mois plus tard, nous avons appris que le défaut des engins explosifs était dû à un sabotage d'ouvriers chinois qui avaient agi, non par conviction pacifiste, mais parce qu'ils en avaient assez de faire, selon leur propre expression, un boulot de con pour un salaire de merde. Quoi qu'il en soit, lors des bombardements, le pays entier, ignorant ce détail, crut à un miracle. On était tous là, hébétés, à se demander si on avait rêvé. Et puis très vite, la peur a repris le dessus, parce que beaucoup pensaient que les Chinois allaient remettre ça.
Non.
Que les autres pays réagiraient, forcément, et que ça allait être l'escalade. Étrangement, rien ne bougea. C'était comme si la Terre s'était arrêtée de tourner. Il y a eu quelques jours d'incertitude, suivis d'une longue période de flottement. Dans le quartier, les gens passaient beaucoup de temps à discuter, à chercher des informations, à attendre. Mais à attendre quoi? Que pouvions-nous faire? Le gouvernement avait disparu. Certains disaient qu'il fallait organiser de nouvelles élections. D'autres pensaient qu'il était préférable de patienter. En attendant, la vie continuait et il fallait bien s'organiser. Alors on a repris nos activités. Chacun essayait de faire ce qu'il pouvait, de se rendre utile. Ouais, il y a bien eu quelques pillages, mais pas tant que ça. D'abord parce que comme il n'y avait plus vraiment de flics, il n'y avait plus de voleurs non plus. Ça n'avait plus de sens. Et puis surtout parce que la première préoccupation des gens, après ce qui s'était passé, n'était pas d'avoir un écran plat, une nouvelle voiture ou je ne sais quoi. Ils voulaient juste continuer à vivre. Et si possible, en paix. Un matin, je suis retourné au boulot. Parce que c'est ce que je faisais depuis des années et que j'aimais faire. Mes collègues ne savaient pas si le patron était parti ou mort, mais en même temps, nous n'avions pas besoin de lui pour mettre les machines en route. Nous nous sommes mis au travail. Et quand nous en avons eu assez, nous sommes rentrés chez nous. Voilà, ça a commencé comme ça. Et après, les jours suivants, ça a continué tout seul. C'était pas très nouveau, en fait. C'était juste une autre façon de faire. Dans les autres quartiers, c'était pareil, et dans les autres villes aussi, dans tout le pays, en fait. Dans tout le pays. Et ailleurs. Bien sûr, il restait quelques responsables politiques, religieux ou militaires qui tentèrent de reprendre le pouvoir, et d'autres aussi qui proposèrent de soi-disant nouvelles méthodes de gouvernement. Il y a eu quelques tentatives plus ou moins brutales de remettre la vieille machine en route, mais ça ne prenait plus. Personne ne pensait plus à obéir parce que tous avaient autre chose en tête.
L'homme marquera une pause avant de conclure.
Ce n'est pas toujours facile, mais il faut bien reconnaître que ça avance pas mal pour l'instant et c'est quand même plus peinard.
Je ne suis pas sûr de bien comprendre.
Dira le président.
C'est qui alors, votre président ?
Son interlocuteur lui assurera que plus tard, s'il le souhaitait, il se ferait un plaisir de lui expliquer à nouveau. Le président ne l'entendra même pas.
Parce que si vous n'avez pas de nouveau président, alors je reprends ma place.
L'homme sera loin déjà. Le président le suivra un moment dans la rue, saluant d'un geste ce qu'il croisera. Et lorsque l'un d'eux aura un air surpris, il précisera.
Je suis votre président.
Ajoutant parfois un timide.
Vous me reconnaissez, hein ?
Qui restera toujours sans réponse. Au bout d'une heure, sa bonne humeur déclinera et ses paroles se feront moins aimables. L'un de ses anciens ministres finira par le rejoindre.
Je crains qu'il soit inutile d'insister. Rentrons, monsieur le président.
Le président s'immobilisera, prenant les passants indifférents à témoin.
Ah ben voilà, c'est ça. Vous entendez, je suis votre président.
Le ministre aura beau le tirer par la manche, il ne bougera pas, répétant.
Je suis votre président.
Alors, un solide barbu au volant d'une camionnette lui criera.
Tu peux être président si tu veux, mais moi j'ai des laitues là en bahut. Alors ce serait bien que tu dégages de là, que je puisse passer.
Le président vivra encore une dizaine d'années dans le quartier où les habitants auront pris l'habitude de l'appeler mon chef. Pas tellement par moquerie, plutôt parce qu'ils penseront lui faire plaisir. Il passera le plus clair de son temps à annoncer à qui veut l'entendre qu'il est en train d'écrire un livre sur sa vie, sur ce qu'il avait fait pour la France. Un livre qui montrerait pourquoi, sans même le savoir, le monde a encore tellement besoin de lui. On le croisera souvent dans les cafés, ses rencontres lui un gros dossier rempli de feuilles. Et puis un jour, il disparaîtra. Personne ne saura jamais ce qu'il sera devenu. On trouvera sur un banc les pérogistres reliés de toile noire dont l'étiquette portera soigneusement calligraphié « Moi, président ». Sur les 8 premières pages, l'unique début de phrase
« Moi, président de la République »
sera répété comme à l'infini, d'une écriture fine et serrée. Les 392 autres seront blanches.
Texte, Olivier Pion. Dit par les comédiens Arnaud Aymar, Gwendal Stéphan et Jérôme Dupin. Avec les voix additionnelles de Guillaume Bernard et Violette Angers. Réalisation, Jean-Baptiste Goubard pour Radio Béton. Musique originale de Jean Skibitz. Avec le concours de l'émission Des Poches sous les yeux, de l'Université François Rabelais et de la Bibliothèque municipale de Tours.
Et voilà le travail, j'ai envie de dire. Bravo, ouais. Bravo.
Et vivement qu'on le réécoute sur béton.
Oui, on va le réécouter sur béton, on va le réécouter sur les sites de la bibliothèque, de l'université, de béton.
Et Olivier... aussi sur le site des poches sous les yeux.
Oui, aussi, excuse-moi. Olivier, une réaction ou pas de réaction?
C'est pas mal. Non, c'est très bien. C'est l'entendre comme ça, lu à voix haute, mis en forme, c'est vraiment sympa. C'est très très bien. Merci.
Ben merci à toi, en tout cas. La suite d'Au quart de tour, parce que en fait, tout ça se passe dans le cadre du festival Au quart de tour, c'est tout à l'heure, c'est l'inauguration au studio. Pascal, viens au micro, parce que je suis incapable, là.
Bah, la suite, c'est tout à l'heure, là. C'est dans quelques heures. À 19h, rendez-vous au cinéma studio pour la traditionnelle nuit du cinéma bis, voilà, avec nanarland.com qui nous sert des espèces de films d'horreur, là, et on a une belle pelletée, une belle cuvée pour 2015, voilà, c'est précédé par un petit concert gratuit avec un coup à boire, avec Chicken Diamond qui viendra chanter une espèce de one-band entre punk et blues, hein, vous connaissez les chauffe-punk, et bien il y a aussi du blues-punk, hein, du blunk, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, et puis surtout demain, au quart marche sur la ville, hein, c'est à partir de 15h, rendez-vous rue de Bordeaux, et puis on marchera jusqu'à...
Devant Alternative.
Oui, devant Alternative. Enfin, la rue de Bordeaux n'est pas si grande. Hein. Ah. Donc venez, c'est une manifestation année 86. Hein, donc on précédera de quelques mois la première naissance du festival au quart de tour. Donc il y aura des maquilleuses, des coiffeuses, des habilleuses. Hein, on a des fringues. Voilà, ça va être une bonne manif déconnante avec des beaux panneaux, avec des compagnies de théâtre de rue qui vont venir nous aider à... foutre le why, et puis de la musique, ça se terminera en concert à la Guinguette. Voilà. Le programme de ce week-end.
Bravo, merci. Le programme de DOD Débat, c'est la semaine prochaine, une émission sur l'éducation Moodle Moot avec des spécialistes de l'éducation et de la fac. On est en deal avec la fac, on ne s'en sort pas. Le 13 juin, on sera en direct de quart de tour à la Gloriette pour le rendez-vous des vieux cons, des profs qui vont réfléchir à ni Dieu ni maître, des profs d'histoire, de philo.
Ce sont des gens avant d'être des profs.
Ouais, mais là, pour le coup, ça sera des profs. Ce seront des
cumule,
profs.
Quoi, mais... je fais...
Et le 20 juin, on recevra Sophie Oconi. Enfin, on pense qu'on recevra Sophie Oconi qui nous parlera de l'Agence mondiale de l'eau. Mais on boira du vin parce qu'on ne sera plus à la bibliothèque. Et donc, on aura le droit de boire. Voilà, merci
à
tous.
Et non, tu as oublié quelque chose d'essentiel. Ben, il y aura aussi un direct des poches sous les yeux à Au quart, le samedi, sur le thème « Ni Dieu ni maître ». Il y a pas mal d'écrivains qui rentrent dans ce thème.
Donc, un direct à partir de 14h ?
De 14h.
Très bien. Merci à tous. Merci à la bibliothèque, encore une fois, pour nous avoir accueillis. Et à bientôt. Ciao.
Ciao.
These are the times that try men's souls. In the course of our nation's history, the people of Boston have rallied bravely whenever the rights of men have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.